Dictionnaire de la sagesse ancienne, avec David Goulois et Dominique Abdelnour. Cette émission présente les concepts fondamentaux de la sagesse ancienne, sagesse éternelle qui comprend les traditions initiatiques du passé et aussi les enseignements ésotériques modernes. Pour aller plus loin ou pour réécouter des émissions, vous pouvez vous rendre sur le site de David Goulois, www.sagesseancienne.com. Au cours de cette émission, nous allons parler de la Genèse. La Genèse, le texte biblique qui donne une idée de la création de l'humanité. Nous allons aussi voir comment ce qu'est un mythe, quelle est l'universalité des mythes, comment on les retrouve dans beaucoup de civilisations, de traditions. Nous allons interpréter les personnages, et la signification des mythes dans un cas particulier qui est l'individualisation de l'être humain, c'est-à-dire le passage de l'animal à l'être humain. Nous terminerons par les interprétations astrologiques. Alors tout d'abord, David, est-ce que tu peux nous parler de la Genèse, donc de ce premier livre de la Bible qui décrit l'origine de l'humanité? On se souvient, tout le monde sait, Adam et Ève, Ève qui naît de la côte d'Adam, le serpent, l'arbre de la connaissance. Est-ce que tu peux nous raconter cela?
Oh, t'as presque tout dit déjà. Donc la Genèse commence bien sûr par la Genèse du monde, la création de l'univers, et puis après donc de la Terre également. Et puis après vient la naissance de l'humanité, à commencer par Adam. Adam est le premier homme créé par Yahvé, Dieu. Et donc il vit dans le paradis, l'Éden. Il y a un arbre au centre de ce paradis, l'arbre de vie. Alors il semblerait qu'il y ait un arbre de vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça semble être deux arbres distincts. Et... À un moment, Yahvé crée pour Adam une femme, son double féminin quelque part. Il crée Ève. Ils vivent dans ce paradis qui va bientôt être perdu. Ils vivent dans ce monde de l'âme en fait, ce monde merveilleux. Et il y a juste un interdit, c'est de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas une pomme, c'est un fruit en fait. Hein. C'est souvent associé à la pomme, parce qu'on a aussi cette symbolique chez les Grecs et dans d'autres traditions. Mais là, c'est un fruit, c'est le fameux fruit défendu. Et il y a un serpent entouré autour de cet arbre qui va tenter Ève, qui va l'inviter à goûter ce fruit, malgré l'interdiction de Dieu. Et Ève va goûter ce fruit et elle va en faire profiter Adam. Et c'est un fruit qui en fait apporte le discernement, ils ouvrent leurs yeux, ils commencent à voir qu'ils sont nus, ils commencent en fait à, quelque part, ils acquièrent cette individualité, ce qu'on verra tout à l'heure, mais en tout cas ils acquièrent le discernement, parce que c'est l'arbre du discernement, du bien et du mal, c'est l'arbre de la connaissance. Et donc Yahvé les surprend et il va les chasser du paradis, et avant cela, ils vont se revêtir, se couvrir. C'est une allusion aussi à l'incarnation, hein. Il se revêt de peau et se couvre, et ils vont être chassés du paradis, et Ève va enfanter dans la douleur, et Adam devra travailler le sol, alors qu'avant, dans le paradis perdu, bah, tout était à portée de main.
Alors, pourquoi quand on goûte ce fruit de la connaissance du bien et du mal, on perd le paradis? Parce qu'il faut s'incarner pour avoir cette notion de connaissance du bien et du mal. C'est nécessaire de s'incarner, c'est cela que ça veut dire?
Alors, c'est là qu'on rentre dans l'interprétation du mythe. On peut interpréter, parce que c'est un mythe en fait, c'est un mythe ancien, parce que la Genèse est une sorte de compendium, de résumé de plusieurs mythes, notamment des mythes qui venaient de Mésopotamie. D'ailleurs, on en a une preuve dans le simple fait qu'il y a une rivière qui coule et qui donne quatre bras, et il y a deux bras à cette rivière qui sont les deux fleuves de Mésopotamie. Mésopotamie, ça veut dire entre les fleuves. Il y a le Tigre et puis l'Euphrate. Donc on voit bien qu'il y a une influence mésopotamienne. Et donc dans ce mythe, il y a cette notion d'arbre et de fruit. Et en effet, ce fruit, vu que c'est le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est un fruit de connaissance. Donc quand Adam et Ève, qui sont sans connaissance quelque part, sans mental, mangent le fruit, ben, ils acquièrent le mental. Et c'est ça, c'est une première interprétation du mythe. La connaissance est symbolisée par la pomme. Et la pomme, c'était le fruit d'Aphrodite chez les Grecs. Et Aphrodite, c'est Vénus. Elle représente, d'un point de vue plus ésotérique, l'énergie de la connaissance, de la soi-conscience. Donc quand Adam et Ève mangent le fruit, en fait, symboliquement, c'est l'humanité animale. L'humanité est encore dans des corps animaux quelque part qui vont devenir humains grâce à ce don du mental. On dit dans les enseignements ésotériques que le mental s'est développé sur Terre par l'influence de Vénus.
Donc c'est pas une punition finalement, c'est une sorte de sacrifice qu'ils font pour connaître la connaissance, le bien et le mal, et devenir comme des maîtres de sagesse qui eux ont cette connaissance du bien et du mal.
Alors oui, c'est un texte mystique écrit par des mystiques, donc ils ont tendance à reprendre les mythes et à parfois à apporter à ces mythes une vision dualiste, le bien, le mal, ce genre de choses, la punition, la récompense, ce qui est très présent dans les monothéismes, hein, cette vision dualiste. Mais si on l'interprète plus profondément, en effet, c'est un procédé inévitable, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, les animaux acquiert suffisamment d'intelligence pour devenir des hommes, et c'est symbolisé par le fait de prendre le fruit. Alors parfois, chez certains gnostiques, par exemple, ça a été interprété différemment. Yahvé représentait les forces de la matière, parce que pour les gnostiques chrétiens, surtout ceux d'Égypte, le dieu du judaïsme était le dieu qui représentait Saturne, qui représentait le régent de la matière. Donc quelque part, c'est comme s'il les empêchait d'accéder à ce mental, parce qu'il dit, Yahvé dit, vous deviendrez comme des dieux, vous serez comme nous. En plus, il y a cette phrase comme nous, c'est assez bizarre. On a l'impression qu'il y a une collectivité de dieux. Hein. Donc ils vont devenir des dieux. Ils vont en tout cas commencer leur chemin vers leur divinité. Et ça passe par l'obtention du mental. Un animal n'est pas évolué mentalement. Il peut pas penser par lui-même. Il peut pas être un sujet conscient. Donc l'individualisation, ça représenterait ça, le fait de prendre cette pomme.
Pour reprendre les mythes, en fait, les mythes, ce sont des moyens de transférer une connaissance sous une forme symbolique. Et on voit bien que une fois qu'on a interprété, qu'on a la clé pour interpréter les symboles, on trouve une même sagesse dans les différentes traditions. Est-ce qu'on peut reprendre un certain nombre de mythes qu'on retrouve à droite à gauche, et tu peux nous donner des espèces d'explications des mythes principaux? Par exemple, le jardin céleste pour les dieux, qu'est-ce que c'est? C'est le paradis?
C'est ça, le paradis. En sanskrit, c'est paradesha, c'est le pays au-delà. Donc c'est souvent représenté comme un lieu qui, à l'origine, peut avoir été un lieu géographique connu. Hein, on parlait de la Mésopotamie. Il faut savoir que les Juifs ont été emprisonnés, ils ont été en exil en Mésopotamie, hein, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, et ils ont été initiés. D'ailleurs, la Bible a été pratiquement entièrement réécrite après coup, hein, par les scribes comme Esdras et d'autres. Donc oui, il y a cette influence. On peut penser que Gan Eden, c'était une sorte de collège de rabbins, un collège de mages plutôt, à Babylone. C'est parfois interprété comme cela. Donc le paradis, on verra plus tard, ça peut être un lieu d'initiation, mais c'est un lieu aussi de l'au-delà. Alors il y a plusieurs paradis qui sont liés à l'ouest souvent, chez les Grecs, les Champs-Élysées, le nom de notre fameuse avenue maintenant. C'était avant un paradis, c'était le séjour des nobles, des nobles âmes, par opposition au Tartare, qui était une sorte d'enfer. Donc le Tartare était à l'est, on pense à la Mongolie maintenant, et puis à l'ouest, c'était les Champs-Élysées. On a le paradis céleste du Bouddha Amitabha, qui est le Bouddha de l'Occident. On a plusieurs formes de paradis. Dans l'hindouisme, on a Indra, qui est le roi des dieux et qui veille sur un paradis. Il y a souvent un arbre d'ailleurs au centre de ce paradis. Pareil, dans une autre forme, ça c'était pour le védisme, dans l'hindouisme plus populaire, c'est Shiva et Parvati qui aussi vivent dans le mont Kailash, est apparenté au mont Meru, qui est, donc parfois c'est des monts, hein, et qui est aussi apparenté donc à ce monde céleste. Donc c'est une sorte de séjour divin. Et ça représente le plan de l'âme. On peut comprendre le paradis comme cela. Et il y a souvent donc un arbre. Un arbre qui se
Alors
trouve au
justement,
centre.
cet arbre, c'est parce que dans beaucoup de traditions, on a une notion d'arbre sacré, c'est une espèce de d'axe qui relie le ciel et la terre. Là, est-ce que tu peux nous parler de ces arbres qui sont partout finalement?
Ils sont partout, donc il y a un arbre sacré pour Indra, ou pour Shiva, au niveau du mont Kailash ou du mont Meru. Il y a un arbre sacré en Égypte. Alors parfois ça varie, comme en Babylonie, ça peut être le sycomore, ça peut être le frêne. On a un arbre du monde chez les Scandinaves qui s'appelle l'Yggdrasil. C'est un arbre immense qui représente quelque part la totalité de l'univers. Les racines représentent plus le monde matériel. Il y a un monde médian et puis il y a le monde supérieur symbolisé par les branchages, les fleurs et les fruits. Voilà, cet arbre représente, c'est ça, cet axis mundis, cet axe du monde. Et il y a aussi autour de cet arbre la notion de genèse, de création de l'humain. Chez les Scandinaves, par exemple, l'homme et la femme étaient nés à partir de deux morceaux d'arbre, le frêne et l'aulne. Le frêne, c'était aussi l'arbre de vie, l'Yggdrasil. Et on a ce frêne qui revient aussi chez les Mexicains. Et on a, sur plusieurs codex de Mésoamérique, on a un arbre qui sort comme ça, avec souvent deux branches de chaque côté, et on a deux serpents, et on retrouve encore le serpent avec l'arbre, deux serpents qui s'enroulent autour, un qui passe à droite, un autre qui passe à gauche, comme le serpent du bien et du mal, comme quoi c'est des symboles très anciens. Et on a ça aussi chez Hésiode, l'idée que la troisième race, celle de bronze, est sortie d'un frêne. Donc on a cette symbolique végétale, où on compare l'homme à un arbre, parce que l'arbre c'est le sommet de l'évolution végétale. Et on pourrait dire quelque part que l'homme, c'est le sommet de l'évolution animale, parce que l'homme vient de l'animal. Et voilà, il grandit, il en émerge, il émerge de la nature comme cela. Et l'arbre était peut-être le premier temple aussi, hein.
Parce que l'arbre qui relie le ciel et la terre, c'est comme l'humain relie le règne animal et les règnes célestes. On a un petit peu on peut faire une allusion comme ça.
Elle est très connue d'ailleurs parce que dans les arts martiaux, on compare l'homme à un arbre. Les racines sont les pieds, hein, le tronc bien sûr, on parle même du tronc du corps, les branches pour les bras, et puis bien sûr les feuilles, c'est tout ce qui est plus subtil, c'est le bout des doigts.
Et
Et la cime pour la tête.
notre couple primordial, Adam et Ève, qu'est-ce que c'est? C'est le yin et le yang? C'est Shiva et Parvati? C'est quoi? Partout, il y a des couples
Voilà.
primordiaux
C'est
qui...
les deux principes. Alors bien sûr, ça représente dans l'évolution humaine la séparation des sexes, parce que dans pratiquement toutes les traditions, une idée d'androgynie. Le premier Adam, quelque part, il est ni homme ni femme, et il devient vraiment homme quand Ève arrive, quand la polarité arrive. D'ailleurs, elle sort de la côte. On se demande si c'est pas même à côté de lui, hein, s'il y a une forme de jeu de mots là peut-être, mais il y a une subdivision. Il y a Adam et Ève. Alors en hébreu, on a aussi beaucoup interprété ça, la valeur d'Adam, la valeur d'Ève. Ève représente l'aspect féminin, on peut la comparer à Vénus. Adam pourrait être comparé à Mars ou à toutes les planètes qui sont plus masculines. Donc en gros, l'un est le soleil, l'homme, et l'autre est la lune, le féminin. Donc il y a ces deux polarités et ça représente avant tout l'humanité mâle et femelle qui vont se subdiviser. Et c'est ce qui s'est passé dans les époques anciennes, dans les enseignements ésotériques. Il y a toujours ce thème d'une humanité au début androgyne qui s'est peu à peu séparée. On a ça beaucoup dans la doctrine secrète, pour ceux qui sont intéressés par les ouvrages de Madame Blavatsky. Mais on retrouve cette androgynie.
Donc des races qui au début étaient androgynes et qui après se sont sexuées.
Voilà, pure, parfaite, éthérée même souvent, et après qui deviennent sexuées, qui deviennent. Et à ce moment-là, le sexe, l'apparition du sexe, qui est symbolisée ici par le serpent, interprété comme ici la nature sexuelle qui arrive, et donc qui dit sexe dit reproduction, ça symbolise une chute de la nature spirituelle, parce qu'on rentre dans le domaine de l'incarnation, de la chair. Donc il va y avoir reproduction sexuelle, donc il va y avoir enfantement, il va y avoir alors les douleurs de l'enfantement, Yahvé en parle pour Ève, il va y avoir la famille qui va se créer, donc le travail nécessaire pour faire nourrir cette famille. Donc voilà, on rentre après dans les conditions humaines. Mais ça peut représenter plein de choses. Tu disais tout à l'heure les mythes, il y a une clé, en fait il y en a plusieurs clés. Il y a plusieurs clés pour interpréter les mythes.
Alors un autre mythe là, la source d'où coulent quatre fleuves, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un sens particulier?
On a, avec le 4, toujours la notion de carré, de cube, d'incarnation. Donc, souvent, on les relie aux quatre points cardinaux. Donc, c'est une autre façon de représenter l'incarnation. On avait l'arbre qui était le ciel et la terre. Et bien, la croix, c'est un emplacement quelque part. C'est la rencontre des quatre éléments aussi. Quand on s'incarne, les terres, c'est le cinquième élément, plus subtil. Et puis, on rentre dans le monde de l'incarnation, dans. On va avoir un corps de terre, d'eau, de feu, d'air. Donc on rentre dans ce
Donc
monde-là et
c'est
le
une symbolique de la croix, alors, ces quatre
symbolique de la
fleuves.
croix, c'est aussi une symbolique de l'humanité qui est le quatrième règne. Comme tu le disais, il y a les règnes supérieurs et les règnes inférieurs. Les règnes inférieurs, on les connaît. Il y a le règne minéral, animal, pardon, minéral, végétal, animal, dans l'ordre. Et le quatrième règne qui est le règne humain. Donc voilà, ça représente une sorte d'incarnation, de crucifixion sur la croix de la matière, on pourrait dire. Venir en incarnation, c'est symboliquement être crucifié sur la croix de la matière. On vient et on est, qu'on le veuille ou non, composé de ces forces-là qui sont symbolisées par les quatre directions. On a cet exemple qui revient, par exemple, chez les Scandinaves. On dit que la première vache qui va nourrir l'ancêtre des géants, eh ben, elle avait quatre. Comment dit-on?
Quatre
C'est
pis.
quatre pies. Et à partir de ces rayons, il y avait donc quatre fleuves de lait qui en coulaient. Donc voilà, ça revient assez souvent, cette notion-là. On a aussi pour l'Inde, à partir de ce paradis céleste, on dit qu'il y a un lac qui est près du fameux mont Kailash, c'est un mont près de l'Himalaya. Et on dit qu'il y a le plus grand lac d'eau douce du monde, d'ailleurs, qui est très intéressant, c'est le lac de la déesse Manasa, ce qui est la déesse du Manas, du mental. Et il y a quatre grands fleuves qui vont dériver, dont le Gange, l'Indus, le Brahmapoutre et un autre, le Sutlej. Il y a quatre grands fleuves qui vont s'écouler dans quatre directions différentes. Donc tu vois, on a vraiment cette symbolique. Il y a une notion d'abondance aussi dedans. Hein, c'est un paradis perdu, donc s'il y a l'eau, s'il y a la végétation, c'est un symbole vraiment de luxuriance, d'abondance. Donc c'est un paradis perdu. C'est l'idée aussi qu'à toutes les énergies au départ et qu'au fur et à mesure on va aller vers la différenciation des sexes notamment.
C'est beaucoup, beaucoup de choses dans ces quatre fleuves. Dernier symbole dont je vais demander une explication, c'est le dragon.
Le dragon, le
Le
serpent.
mythe, dragon, serpent, qu'est-ce que c'est?
Alors il y a deux manières de l'utiliser. Enfin, il y en a même plus, mais grosso modo, soit on diabolise le serpent, c'est un peu le cas dans la Bible, et à ce moment-là, il représente le mal, la tentation, le désir, c'est le serpent de l'illusion. Et on va aussi s'en servir beaucoup comme gardien des lieux saints, des lieux sacrés, parce qu'il est effrayant, il peut piquer, il est mortel, Et dans l'Antiquité, on élevait beaucoup de serpents en Égypte, en Grèce, même c'était même contenu dans des jars ou alors dans des temples, on les élevait, c'était vraiment connu. Et le serpent représentait la sagesse et c'était un gardien au même titre que des lions qu'on représenterait ou même des dragons hein, en Chine. Donc il peut représenter ces forces un petit peu, ces forces parfois même naturelles. En Chine, on attribue des tremblements de terre à des dragons, des volcans à des dragons, des tempêtes aussi à des formes de dragons. C'est à chaque fois, le dragon symbolise encore les quatre éléments, les quatre forces. Mais il peut représenter la sagesse et l'accès à l'initiation. Et là, à ce moment-là,
Donc là, c'est un sens qui est plus caché.
voilà. C'était le sens que lui donnaient les gnostiques, qui opposaient le dragon, enfin le serpent à Yahvé, et pour eux, le serpent représentait le Christos, qui justement allait libérer Adam et Ève de ce monde de la nature, contrôlé par Yahvé. Et le serpent, en leur donnant le fruit, la pomme, leur disait quelque part, vous pouvez accéder à quelque chose de plus grand, sortir des lois de la nature et devenir des dieux, parce que là, le serpent représentait un serpent de sagesse. Et là, à ce moment-là, c'est plus un serpent d'illusion. C'est le serpent qui permet de retourner à la source. Donc il représente quelque part le lien aussi, l'antakarana, comme on dit en Inde, en sanskrit, c'est le lien entre la personnalité et l'âme. Et on peut même voir Adam comme les principes de Atma Buddhi, les principes du soi et de l'âme qui vont, grâce au serpent, soit descendre. Alors le serpent, c'est une montée, une descente quelque part, hein, c'est un fil, hein. Soit ils descendent vers l'incarnation, soit ils vont remonter grâce au serpent vers l'initiation.
Bon, voilà quelques explications des mythes les plus célèbres. C'est la fin de cette première partie, une pause musicale. Dans cette seconde partie, est-ce que nous pouvons partir d'un mythe, le décortiquer et l'interpréter pour comprendre sa signification? Par exemple, l'individualisation de l'homme, donc le passage de l'animal à l'homme, ou la venue de l'homme, enfin la venue de l'âme dans le corps.
Alors on a déjà commencé à en parler un petit peu. Si Adam et Ève représentent Adam, le principe du père, l'esprit, le soi, l'atman, et Ève, le principe. Alors soit Ève peut représenter la matière, le pôle opposé, ou alors si on reste dans une optique plus métaphysique, elle représente Bouddhi, qui est le principe de l'âme, on pourrait dire le principe intermédiaire qui va se lier à la pomme, qui va représenter là vraiment notre âme individuelle. Ève, ça serait Bouddhi, c'est un terme difficilement traduisible, c'est ce qui éveille, c'est la conscience. Donc ici, Ève, en mangeant la pomme, notre conscience d'âme pure va devenir une conscience individuelle et une âme individuelle quelque part. Donc on peut voir le mythe comme cela, et on peut le comparer au mythe grec, le mythe où Hercule est censé aller chercher les pommes d'or dans le jardin des Hespérides. On a voilà un autre jardin, celui des Hespérides, qui se trouve d'ailleurs près de l'Atlas, à l'ouest, toujours. Et en fait, il va devoir, un de ses travaux, c'est de voler ses pommes. Et il y a trois pommes d'or, et les pommes peuvent représenter ce qu'on appelle les atomes permanents dans les langages ésotériques. Qu'est-ce que c'est? C'est les trois particules mentales, émotionnelles et physiques autour desquelles les corps, nos corps d'incarnation vont se créer. Et donc les pommes peuvent représenter soit ces trois atomes permanents inférieurs, qui c'est un peu nos vêtements, quelque part. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour Adam et Ève. Après être, ils sont nus, ils savent pas qu'ils sont nus, ils vont se couvrir. Dieu leur fabrique aussi une tunique. Ils vont s'incarner. Eh bien, la pomme ici, dans le sens de l'individualisation, peut représenter le sorte de germe, d'atomes premiers à partir desquels d'autres particules vont s'agglutiner pour former un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. C'est comme cela qu'est vue l'incarnation dans les enseignements ésotériques. Donc manger le fruit ou les trois pommes, c'est manger, reprendre, incorporer ces atomes qui sont censés être gardés d'une incarnation à l'autre, si on reste dans la perspective des renaissances. Donc voilà comment on peut voir la pomme. Dans le sens inverse, la pomme, bien sûr, ça va être la pomme de l'initiation. On en parlera peut-être tout à l'heure.
Oui, on verra
C'est
tout à
l'accès au
l'heure.
savoir suprême.
Et est-ce qu'il y a d'autres traditions qui parlent qui ont des mythes qui parlent de l'individualisation?
Tous, en fait, partout, il y a toujours, c'est expliqué différemment, mais il y a toujours, on parlait tout à l'heure d'un arbre qui peut être pris comme modèle. Il y a le couple primordial, on le trouve beaucoup. Alors, il est symbolisé parfois par Yama en Inde, et puis Yami, c'est le pôle masculin, le pôle féminin. C'est le premier homme qui meurt. D'ailleurs, le fait qu'il meurt, ça veut dire qu'il commence à être mortel, alors qu'avant on était immortel. Oui, il y a en fait beaucoup de mythes qui font allusion à une chute, à une descente. Et les chrétiens vont reprendre le mythe de la chute des anges, en diabolisant un petit peu la chute de Lucifer, alors que Lucifer représente l'âme collective de l'humanité, c'est le porteur de lumière. Donc il chute tout simplement, c'est qu'il descend dans la matière, comme nos âmes sont sorties du paradis, du monde des âmes. Et sont descendus grâce aux pommes ou aux trois pommes, à ces trois particules, ces trois atomes permanents. L'âme se construit un corps mental, émotionnel, éthérique, et se lie à un fœtus, à un corps dense.
Oui, donc la notion de chute, c'est pas forcément quelque chose de négatif. On
Non.
juste on descend dans la matière, mais c'est
C'est
un
l'involution. C'est un autre
voilà,
mot pour
c'est mais c'est
l'involution.
un l'involution, c'est la préparation à l'évolution finalement. Donc c'est une partie, c'est un début. Est-ce que par exemple dans les mythes en Inde, qu'est-ce qui parle de l'individualisation de l'homme, de l'individualisation du moment où les êtres humains, enfin les animaux, sont devenus des êtres humains avec une âme individuelle?
Ben, je citais le premier homme qui est créé. En Inde, il y a l'idée qu'on est créé par des classes d'êtres différents. La personnalité est créée par ce qu'on appelle des Pitris Barishad. C'est les ancêtres qui viennent de la Lune. C'est des particules qui vont créer justement nos corps inférieurs, mental, émotionnel, physique. Alors que une autre classe d'anges, si on veut, une autre classe d'êtres, créer l'âme individuelle de l'homme. On les appelle les Agnisvatas. Ce sont les anges solaires. Donc il y a une rencontre entre le soleil et la lune, entre ces classes d'êtres, ces classes de pitris, des pitris solaires, on dirait, ces ancêtres solaires, et ces ancêtres lunaires, ils vont créer l'homme. Mais l'homme, en Inde, il est vu comme le soi, comme l'atman. Donc le soi, pour s'incarner dans un corps lunaire, corps créé par ces pitris lunaires, il a besoin d'un intermédiaire. Et c'est symbolisé par cet ange solaire, cette âme individuelle qui correspondrait ici au fruit, au serpent. Ça peut être le serpent d'ailleurs. Et puis les fruits, ça peut être les corps inférieurs, ou si on part du principe que le fruit représente uniquement le mental supérieur. Voilà, je disais Atma Buddhi qui rencontre Manas. Manas, c'est le mental. Donc voilà, on a plein de mythes différents. On a chez les Grecs Vénus qui est né de l'émasculation d'Uranos par Saturne. Saturne émascule son père et il y a une goutte de sang et puis il y a Vénus qui tombe. Et Vénus, ça symbolise la descente des âmes. Parce que les âmes sont rattachées à Vénus dans la tradition ésotérique. Donc Vénus tombe, comme ça. Elle arrive dans une coquille Saint-Jacques sur la mer. Elle représente beaucoup Lakshmi en Inde. Il y a aussi beaucoup Lakshmi est vue, elle, pas sur une coquille Saint-Jacques, mais sur un lotus. Et Lakshmi, c'est la Shakti de Vishnu, c'est l'aspect conscience, la force de la conscience qui descend. Voilà, on a Nefertum en Égypte, qui est aussi un dieu avec un lotus qui représente, qui vient aussi de Ptah et de Sekhmet, qui représente aussi Vénus. On a Prométhée aussi. Il y a plein, en fait, parfois dans une même tradition, il y a plusieurs mythes qui expliquent différemment. Prométhée, il vole le feu du mental à Zeus, et il l'offre à l'humanité. Donc
Voilà.
l'humanité
Donc
est
il faut
dotée du feu.
toujours avoir le sens caché. C'est-à-dire que le feu, c'est pas juste la flamme, c'est le feu du mental. Donc il y a des clés pour comprendre les mythes, les interpréter et comprendre leur sens caché.
Il y a des clés de lecture toujours. Et il y a même plusieurs clés de lecture.
Nous allons maintenant parler de l'initiation telle qu'elle est racontée, évoquée dans les mythes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une initiation? Une initiation, c'est comme une accélération dans l'évolution au fur et à mesure qu'on commence à maîtriser ou prendre conscience d'un plan. On sait qu'on peut avoir conscience du plan physique, du plan astral, du plan mental, du plan bouddhique. Donc, au fur et à mesure que notre conscience monte dans les plans, il y a des moments clés qu'on appelle des initiations où il y a une sorte de bascule dans la maîtrise des plans. David, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce processus d'initiation qui est depuis longtemps mis en place sur Terre? Je crois que ça fait à peu près 8 millions d'années que ça a été mis en place, hein?
Alors, l'initiation, déjà, c'est le pendant de l'individualisation. On peut associer l'individualisation à l'involution. On a dit la descente, on a parlé longuement avant la pause, la descente de nos âmes qui quittent le paradis céleste pour s'incarner dans des corps animaux qui sont déjà des corps humains, hein, qui sont des corps animaux perfectionnés, qui sont les ancêtres des corps humains, nos premiers corps. Et le pendant, c'est quand commence l'évolution véritablement spirituelle, c'est là où on va quitter notre règne humain et pour aller vers le règne spirituel. Alors que l'individualisation, c'est le passage entre l'animalité et l'humanité. Ben là, l'initiation, c'est le passage entre l'humanité et l'état de maître de sagesse, l'état d'initiation. Donc si on accepte que l'évolution est beaucoup plus longue qu'on le croit, les traditions ésotériques disent qu'elle a eu lieu en Atlantide, qu'elle a été instaurée à cette époque-là, dans des civilisations et des cultures très reculées mais très développées, par les maîtres de sagesse, et qu'il y avait des écoles de mystère dont on parle dans les traditions anciennes. C'est venu jusqu'aux Grecs et aux Romains qui ont essayé de perpétuer ces anciens cultes à mystère. et qu'il y avait des entraînements pour ceux qui étaient prêts. C'est un peu l'équivalent de nos universités supérieures de maintenant, sauf que là, c'était pas seulement dans le domaine de la connaissance, mais dans le domaine du développement spirituel. Donc l'initiation, ce serait des étapes initiatiques. Alors maintenant, il n'y a plus d'école initiatique ouverte, c'est des initiations intérieures, c'est des expansions de conscience intérieures qui marquent une maîtrise d'un plan. Et il y en a cinq en rapport avec les cinq plans, les cinq éléments. Le plan physique avec la terre, le plan émotionnel avec l'eau, le plan mental avec le feu, le plan de l'intuition avec l'air ou bouddhi, c'est pareil. Et le plan atmique, le plan nirvanique, dirait un bouddhiste, pardon, avec les terres. Donc voilà, on passe par ces cinq plans qui correspondent aux cinq éléments, aux cinq grandes étapes de la vie de Jésus, aux quatre initiations avant de devenir un Bouddha, à la cinquième initiation. On a l'équivalent chez les soufis, on a. Voilà, c'est. Dans l'hindouisme aussi, avec les cinq. C'est ça, il y a les cinq aspects de Shiva. Donc il y a cinq grandes expansions de conscience. Donc ici, on peut voir le mythe, en effet, plus à travers l'individualisation, l'involution, mais vers l'évolution. Et Adam et Ève peuvent représenter l'homme et la femme face à l'arbre. L'arbre, je l'avais dit auparavant, c'est un peu le premier temple quelque part. Hein. L'arbre, la grotte, ce sont les ancêtres des temples, vraiment après architecturaux, hein, les temples qui vont être construits, mais la nature a été le premier temple et on trouve encore en Inde, dans des villages, le temple qui est un arbre au milieu du village et on y met un lingam devant. Et on y met même souvent des espèces de caducées d'Hermès, deux serpents qui se croisent comme ça, qu'on appelle des nagakal, des pierres de naga, de serpents, qui se trouvent au pied de l'arbre. Mais l'arbre semble être vraiment un vieux symbole, pas seulement pour l'anthropogenèse, mais pour l'initiation également. C'est un lieu de culte, ou un lieu qui symbolise l'emplacement du culte. Et ça peut être l'arbre, pas dans le sens de la descente, mais dans la remontée. Et le serpent, enroulé autour de l'arbre, peut représenter, comme pour les gnostiques avec le Christos, qu'ils appelaient office, le serpent peut représenter la force en spirale, parce qu'il tourne autour de l'arbre, la force évolutive qui nous tracte, qui nous tire et qui va nous permettre de passer l'initiation. Donc le serpent symbolise ici la sagesse. C'est un
Ah,
dragon de sagesse.
c'est la sagesse qui nous permet d'évoluer alors.
Oui, la sagesse, alors la sagesse inclut plein d'autres qualités. Pourquoi on a pris le serpent avec la sagesse? Parce que c'est un animal à sang-froid. C'est un animal qui peut rester de longues heures, longtemps, comme ça, comme en méditation. Il est enroulé autour de lui-même comme les cycles de l'évolution. C'est un animal qui perd sa peau, qui mue. Ça représente les.
Les initiations, ça.
Et puis les réincarnations aussi, et le fait de, au fur et à mesure, on change de peau, on en prend une nouvelle. Donc il y a la mue, il y a la mutation dans le serpent. Il y a plein de choses dans le serpent. Et bien sûr, ça peut représenter l'énergie sexuelle, mais plus basiquement l'énergie de la Kundalini. Le serpent des profondeurs qui est logé c'est un feu sacré qui est au fond de la colonne vertébrale et qui est censé monter lors des initiations. La fameuse montée de Kundalini. Donc voilà, le serpent représente tout ça. Et Adam et Ève peuvent représenter aussi les deux polarités de notre nature humaine. L'homme, la femme, mais toutes les paires d'opposés qui doivent être maîtrisées.
Mais tous les mythes où on voit un guerrier, par exemple, qui terrasse un reptile, par exemple Michel et le dragon, ou bien alors le mythe de Hercule et de l'hydre, est-ce que ce n'est pas des sortes de symboles, justement, de ces initiations qui nous font passer des étapes et progresser plus rapidement?
Tout à fait, on peut voir le serpent comme un diable et comme notre nature inférieure. Et sexuel et autres que l'initié Hercule, le Saint-Michel ou peu importe Indra ou autres vont essayer de maîtriser. Ou alors on peut aussi inverser les choses, voir dans l'homme le côté guerrier de la nature humaine impétueuse et puis le serpent, l'aspect de nous, l'aspect initiatique qui essaye de prendre le dessus. Il y a une lutte en tout cas entre l'animal et l'homme. Donc tout dépend le. Encore une fois, les mythes sont, à mon avis, peuvent être interprétés de diverses manières. Tout dépend de ce qu'on veut y voir. Mais de façon générale, c'est interprété comme le serpent facteur d'involution ou facteur lié aux forces du désir et aux forces animales, et l'initié, Hercule et autres, comme un symbole solaire, un symbole, le symbole de l'âme, qui essaye aussi de maîtriser, mais aussi si le serpent représente notre Kundalini, c'est une force interne qui est puissante, vivace, qu'on doit réussir à maîtriser. Et dans le corps, il y a deux courants, deux polarités. On dit dans l'anatomie occulte en Inde, on parle de Sushumna, qui est un méridien, un couloir d'énergie au centre de la colonne vertébrale. Et de chaque côté, on a deux autres méridiens, Pingala et Ida. Pingala, c'est à droite, c'est l'énergie solaire. Et Ida, c'est à gauche, c'est l'énergie lunaire. Et on les montre s'entrelaçant, comme le Nagakal ou comme le caducée d'Hermès. Et on doit, au fur et à mesure, quelque part, contrôler Adam et Ève en nous.
Mais quand tu parles de ces deux polarités, si on prend les deux piliers du temple de l'initiation de la maçonnerie, on a aussi cette représentation des paires d'opposés, soleil-lune, masculin-féminin.
Tout à fait, il y a la colonne de Yakim et la colonne de Boaz. C'est-à-dire la colonne solaire qui est à droite, dans nos traditions à nous occidentales. La droite est Yang, parce qu'en Chine c'est l'inverse, hein. Mais chez nous la droite est Yang et la gauche est Yin. Donc la gauche est lunaire, féminine, la droite est masculine. D'ailleurs on a plein d'expressions comme ça, hein. La droiture c'est relié à la justice, c'est relié au père. Et puis le côté gauche et le côté intuitif, féminin. Donc ça symbolise deux courants d'énergie. Et quelque part, toutes nos polarités sont concentrées dans ces deux grands canaux d'énergie. Et l'initiation est possible lorsqu'il y a l'équilibre entre ces deux parties-là. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans le temple. C'est-à-dire, on peut se faire initier. Et
Oui,
c'est le milieu.
on a aussi cette notion de dualité en gardien de porte du temple. C'est chez les Chinois avec Castor et Pollux, qui sont des étoiles des Gémeaux et qui gardaient la porte du temple.
Voilà, les deux étoiles qui, voilà, comme tu dis, c'est les gardiens des portes, les gardiens des initiations, des portes de l'initiation. Ça peut être deux soldats, ça peut être les deux frères. Alors c'est intéressant, dans Castor et Pollux, ça c'est les termes grecs, c'est les Dioscures, les fils de Dieu, le Zeus. Eh bien, il y en a un qui est mortel. Castor, si je me souviens bien, c'est celui qui est mortel. Et Pollux, c'est l'immortel. Et on a, alors ça c'est relié à la constellation des Gémeaux, qui a un lien très important avec toute cette symbolique, hein. De la genèse de l'humanité, de l'arbre, du pilier, de la maçonnerie, il y a un lien avec la constellation des Gémeaux. Parce que les Gémeaux, ce sont les deux jumeaux, les deux frères opposés et complémentaires.
Ce qui revient à ce que le travail que nous avons à faire pour nous rapprocher de l'initiation, c'est résoudre les paires d'opposés, c'est-à-dire les contradictions en nous, les conflits, etc. C'est bien ça. Et c'est ça qu'on retrouve dans cette symbolique avec les deux étoiles qui gardent la porte du temple ou les deux piliers du temple de l'initiation de maçonnerie, etc.
Oui, et parfois c'est symbolisé par un frère et une sœur, comme le dieu du soleil chez les Grecs, Apollon avec Artémis. Hein, on a parfois, c'est pas forcément deux frères, un mortel, un immortel, ça peut être soleil et lune. Et on a en tout cas souvent, voilà, ces deux frères ou sœurs jumeaux qui représentent en effet ces deux paires d'opposés. Alors soit c'est les paires d'opposés à l'intérieur de la personnalité, comme tu dis. Le masculin, le féminin, l'action, la réflexion, ça peut être toutes les l'intérieur, l'extérieur, toutes les formes de polarité, ou alors une polarité plus grande entre le pôle terrestre ou le pôle personnel, la personnalité, et le pôle céleste ou le pôle âme. Et alors en ce moment-là, on a la plus grande dualité possible quelque part entre l'âme et la personnalité, ou même plus loin entre l'esprit et la matière. Donc ça dépend. Si on regarde ça verticalement ou horizontalement, je dirais. C'est-à-dire, on a de la dualité à l'intérieur de notre personnalité et on a une dualité plus grande entre notre nature spirituelle et notre nature matérielle. Mais on doit, pour passer l'initiation, à chaque fois réunir, c'est comme dans l'électricité. Ça représente aussi le pôle plus et le pôle moins. Pour qu'il y ait de la lumière, il faut que le plus rencontre le moins et s'équilibre. Et
Voilà,
là, il y a de la lumière.
c'est vraiment la notion d'équilibre entre les polarités. Équilibrer son yin et son yang, son introversion, extraversion, etc. Donc c'est vraiment ça qui permet de se rapprocher de l'initiation.
Oui. On a un couple de dieux chez les Indiens, on les appelle les Ashvins. Ce sont deux dieux à tête de cheval, et ils ont un rôle justement tu parlais tout à l'heure, dans l'individualisation. Ils sont nés justement à cette époque-là où l'homme a été, où l'animal est devenu un homme. Il y a toute une symbolique avec leur mère qui était une ombre, qui s'est transformée en jument. Et puis leur père s'est transformé en animal, ils ont copulé. Il y a les Ashvins qui sont le produit de de cette génération, et ils sont toujours par deux, et c'est un peu les ancêtres de Castor et Pollux quelque part. Et ils sont reliés à la constellation des Gémeaux, parce que les Gémeaux ont ce lien, sont rattachés à tous les couples primordiaux, Adam et Ève, Castor et Pollux, les Ashvins, le Soleil et la Lune, les deux gardes dont tu parlais, qui sont les deux étoiles des Gémeaux. Parce que dans les Gémeaux, on doit réussir. C'est un signe qui est très proche de l'humanité et puis de la Terre. Dans les Gémeaux, on doit réussir cet équilibre. Donc Adam et Ève, à ce moment-là, bah, ils représentent soit un homme, soit une femme, ou alors ils représentent l'homme et la femme en nous qui se présentent devant le temple de l'initiation. Alors l'arbre, ou alors avec le serpent, ou alors les deux piliers, comme tu disais tout à l'heure.
David, est-ce que tu peux nous reparler encore des Hespérides et de Hercule?
Alors, les Hespérides sont trois, c'est trois femmes qui gardent le fameux verger sacré, hein, le fameux jardin céleste, le jardin des Hespérides, justement, où il y a ces fameuses pommes d'or, ces trois pommes d'or. Alors, on a vu ces trois pommes, soit ce sont les atomes permanents, le long du fil de l'âme, hein, les trois atomes autour desquels nos corps d'incarnation se créent dans une logique d'individualisation, ou alors ça peut être les trois principes supérieurs qui sont de l'or, qui sont du savoir, de la sagesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Inde la trinité, la triade plutôt Atma, Buddhi, Manas, c'est-à-dire les trois principes supérieurs. Quelque part, l'homme, c'est la rencontre entre trois principes supérieurs et trois principes inférieurs, entre la personnalité et les trois principes de l'âme, la volonté, l'amour, l'intelligence. Et donc dans cette perspective initiatique, donc ces trois pommes d'or, c'est un peu les fruits de l'initiation suprême quelque part. Et elles sont gardées par ces trois femmes, donc le trois encore qui revient toujours. Et Zeus a mis un serpent pour garder ce jardin. On trouve encore l'arbre, le serpent, les pommes. Et ce serpent est censé protéger le vol, empêcher le vol des pommes d'or par les Atlantides. Donc ça, c'est intéressant ce thème-là. Les Atlantides, ce sont les filles d'Atlas, et elles représentent bien sûr l'époque atlante. Elles sont sept, elles représentent les sept époques, les sept, on dit, sous-branches de la grande époque atlante. Et elles viennent voler les pommes, et quelque part, il y a une personnification, une illustration de ce qui s'est passé en Atlantide, où l'initiation a été quelque part galvaudée. Tous les principes initiatiques ont été quelque part usurpés, galvaudés, comme si on avait voulu voler ces symboles, voler l'initiation, voler les pouvoirs qui sont conférés par l'initiation. On a donc une illustration de cette chute après qui va se passer à la fin de l'époque atlante où toute l'initiation et les symboles occultes vont être symbolisés. C'est-à-dire c'est là qu'on va avoir justement les mythes, les symboles, parce qu'il va falloir voiler,
Cacher un petit peu,
cacher ce qui était
cacher,
avant beaucoup plus ouvert au niveau
afin
des
qu'il n'y ait
temples.
pas un mauvais usage, c'est ça?
Voilà. Qui est pas un mauvais usage de toutes ces connaissances. Il y avait des connaissances sur les mantras, sur les forces de la nature, comment les mettre en jeu, sur certaines pratiques de magie, sur la méditation. Ce sont des forces quelque part dont on peut mésuser. Et donc les Atlantides représentent les voleuses quelque part. Et le serpent garde ces fameuses pommes.
Avec les Hespérides, alors.
Avec donc les Hespérides, et on a encore le thème du gardien du seuil, c'est-à-dire le serpent, le dragon, qui garde un lieu, un sanctuaire sacré, c'est-à-dire qu'il faut passer par lui pour avoir accès.
Le gardien du seuil, dans le processus d'initiation, c'est une période très particulière où La personne vit vraiment une très grande tension, de très grandes difficultés, et rencontre son ombre, en quelque sorte.
C'est toutes les forces de la personnalité passent s'entrecroisent, qui se mettent entre justement le monde de l'âme et le monde de la personnalité. Ce sont les gardiens du temple quelque part. Et ce sont ceux, c'est comme quand on veut rentrer dans une boîte de nuit quelque part, il y a le videur devant qui nous dit oui, non, on rentre pas. C'est lui qui donne la permission de pouvoir entrer dans le lieu. Donc là, pour le temple d'initiation, on met parfois des lions, des dragons, il y a toutes sortes d'animaux plus ou moins fabuleux. Et quelque part, c'est comme une sorte de permission. Il faut être suffisamment pur, suffisamment droit, aligné,
Fort
fort,
pour passer.
pour passer et pouvoir mériter l'initiation. Donc il peut représenter ça, le dragon. Mais il représente aussi une constellation, le dragon, hein.
Parle-nous de la constellation du dragon.
Alors, dans les mythes, il y a une façon d'interpréter l'allégorie à travers une compréhension astronomique et astrologique. Le dragon, bien sûr, fait penser à la constellation du dragon, fait partie des constellations circumpolaires, ces constellations qui servent à certains moments, qui tournent et qui servent à certains moments de points fixes dans la voûte des cieux, au niveau de l'étoile polaire. Et il y a environ 3000 ans, le dragon était l'étoile polaire. Il était à plusieurs moments l'étoile polaire. Maintenant, l'étoile polaire, c'est l'étoile alpha de la petite ours. Mais jadis, ça a été le dragon. Et le dragon, il serpente entre la grande ours et la petite ours. Donc, il est vraiment au centre des constellations vraiment principales dans notre galaxie. Et quelque part, il serpente autour de ce qui représente notre pôle céleste. Donc, il représente quelque part une indication. Là,
Il
c'est plus.
montre le chemin,
Il
c'est ça?
montre le chemin. Il a donc servi d'étoile polaire et l'étoile polaire, elle montre le chemin. Elle aide pas seulement les navigateurs sur l'eau pour s'orienter, mais quelque part, notre planète elle-même est attirée par l'étoile polaire. C'est comme pour la planète, c'est son mentor, c'est son dessein, c'est sa direction. Donc quelque part, ici, le dragon, dans le temple, autour de l'arbre, il peut représenter le chemin. Et à ce moment-là, il peut être l'antacarana, le pont de liaison pour passer à travers et atteindre notre âme. Donc c'est une notion d'indication. Il tourne parce que la constellation du dragon serpente entre la grande ours et la petite ours, mais aussi en nous, il représente toutes ces ondulations entre nos paires d'opposés, mais quelque part il avance tout de même relativement droit et ça peut être notre axe. Si on prend un serpent et qu'on l'aligne, c'est une flèche, hein, c'est
Oui,
un
c'est
axe
droit.
droit, c'est droit. Donc voilà pour la constellation du dragon, qui avait donc chez beaucoup de philosophes antiques une dimension sacrée, hein. Il y a plusieurs divinités qui étaient associées à cette constellation du dragon, parce que c'était la sagesse, c'était, on a dit, la direction juste, c'était une sorte d'incarnation de ce qu'il fallait suivre, hein, du chemin. Et on a une autre constellation importante, c'est
Sirius?
Sirius.
C'est Sirius. Enfin, c'est une étoile, Sirius.
C'est une étoile dans la constellation du grand chien, et d'un point de vue astronomique, enfin astrologique plutôt, du point de vue de l'astrologie ésotérique, Sirius agit à travers la constellation des Gémeaux dont on a parlé. Et dans les enseignements d'Alice Bailey, qu'on a souvent cités, des enseignements comme ceux de l'astrologie ésotérique, qui est un livre très intéressant sur toutes ces dimensions initiatiques de l'astrologie, on a l'information selon laquelle cette étoile Sirius est quelque part le prototype de notre Soleil. C'est comme son maître. D'ailleurs, c'est une des 7 étoiles les plus proches de notre système solaire, donc de notre Soleil, de notre étoile, hein. Et donc Sirius agit principalement à travers la constellation des Gémeaux. Sirius agit pas seulement par cette seule constellation, mais elle agit à travers les Gémeaux. Et on y apprend que quelque part, la maçonnerie, toute cette symbolique initiatique est née sous l'influence de Sirius à travers les Gémeaux. Donc tout ce qu'on a initié, tout ce qu'on a échangé tout à l'heure sur l'initiation, c'est-à-dire l'arbre ou le temple, le serpent, le dragon, les deux piliers, les deux paires d'opposés, qui fluctue, l'homme et la femme, ou l'initié qui se présente devant le temple, toute cette symbolique de la qu'on trouve dans la maçonnerie, avec la maçonnerie, grosso modo, répond à trois questions fondamentales. D'où je viens, qui je suis,
Où vais-je et dans quelle
ça,
étagère?
celle-là, j'attendais. Et quelle est ma destinée? Bah, quelque part, la constellation des Gémeaux contient ces trois questions. Elle contient la question de l'origine de l'homme avec l'individualité, le présent avec le fait d'équilibrer, ces fameuses paires d'opposés, c'est ce qu'on vit tous de notre vie, on essaie constamment d'ajuster, d'équilibrer toutes les tendances en nous. Et après, la destinée de la Terre et la destinée de l'homme avec l'initiation. Donc on a, par Sirius et par cette constellation, une symbolique initiatique. Donc ici, la Genèse, c'est plus seulement la naissance de l'homme, ça peut être la Genèse, c'est-à-dire la naissance dans un autre monde, la naissance à l'initiation, dans un autre monde, pas forcément hors de la Terre, mais dans un autre niveau de conscience, dans un autre règne. Car selon l'enseignement ésotérique, le but de l'homme, c'est de passer dans le cinquième règne, qui est le règne des maîtres de sagesse. On est destiné à devenir un maître. Et quelque part, la maçonnerie, je ne parle pas seulement de la franc-maçonnerie de maintenant, mais la maçonnerie, c'est une très vieille histoire. Elle a des
Oui,
origines très
c'est au
anciennes.
temps égyptien ou avant ça, c'est le temps des Atlantes
Oui, ça peut
ou
remonter jusqu'à là, si on ouvre très
c'est une
très loin.
tradition initiatique en fait.
C'est toute la symbolique du temple, de l'initiation, et de toute la symbolique ésotérique et initiatique. C'est ça, en fait. Alors, elle a ressurgi au XVIIIe siècle. Mais elle est beaucoup plus ancienne et quelque part on a des traces de la maçonnerie partout dans le monde, notamment dans les écoles de mystère. Donc cette influence de cette étoile Sirius, on dit que Sirius est la grande loge blanche par rapport à la hiérarchie de la planète, c'est comme un prototype supérieur. Sirius, c'est l'origine de l'initiation quelque part. C'est l'énergie initiatique qui atteint le Gémeaux qui atteint le Soleil, qui atteint notamment notre planète. Il y a un alignement, dit-on, dans l'enseignement ésotérique avec ces diverses constellations et astres.
L'initiation, c'est une accélération du processus d'évolution.
C'est une surstimulation.
C'est ça.
Oui. C'est le fait de. Si on s'entraîne, par exemple, à l'initiation, si on s'entraîne, si on médite, si. Les deux grands leviers de l'initiation, c'est la méditation et le service. L'étude aussi peut en faire partie. Le service, c'est la voie des œuvres, hein. C'est-à-dire, c'est le fait de pas seulement chercher sa propre libération, c'est le fait d'aider, de prêter main forte, d'encourager, d'apporter son aide pour le bien commun. Et l'étude aussi fait partie de. C'est un point important aussi, c'est important d'étudier. Et puis il y a aussi une quatrième chose, c'est le travail sur ses illusions, le fait de perdre ses illusions aussi, de travailler à dissiper en soi l'illusion, le mirage. Donc voilà, c'est un petit peu des choses qu'on retrouve souvent dans les écoles initiatiques. Il y a des épreuves, il y a des enseignements, il y a des méditations, il y a quelque chose qui était offert à la nation, à la communauté aussi extérieure, hein. Il y avait toujours aussi, c'était pas des lieux isolés, il y avait un lien aussi avec le monde extérieur.
Voilà, donc cette émission s'achève. Nous avons essayé d'éclaircir un peu ce que c'était les mythes et en parlant par exemple de la Genèse et les mythes dans les différentes traditions. Au revoir, bonne soirée.